Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 15h à Paris et à Cannes, l'heure du journal de Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, l'examen des textes sur la fin de vie s'est terminé ce matin à l'Assemblée nationale française. Le vote solennel à l'issue incertaine est prévu mardi sur un sujet qui transcende les clivages politiques. Dernier coup de pression ou annonce ferme, difficile de le savoir encore, Donald Trump a brandi de nouvelles menaces sur les droits de douane en ciblant l'Union européenne. Les 27 se tiennent prêts, une surtaxe de 50% sur leurs produits exportés aux États-Unis pourrait entrer en vigueur dès le 1er juin prochain. Au Mexique, le mouvement de grève des enseignants ne faiblit pas après 10 jours de mobilisation. Les manifestants enchaînent les opérations de blocage sans grand succès pour le moment. En France, les députés ont donc fini l'examen des deux propositions de loi très importantes sur la fin de vie. Un texte consensuel sur les soins palliatifs et l'autre, beaucoup plus sensible, sur l'aide à mourir. Bonjour Victorien Villaume.
Bonjour Karine, bonjour tout le monde.
Il aura fallu un peu plus de 12 jours aux parlementaires pour aboutir.
C'est ça, 12 jours de débat animé, mais de l'aveu même des députés, globalement calme et respectueux. Nous avons réussi à montrer le meilleur de l'Assemblée nationale, a dit tout à l'heure le rapporteur de la loi Olivier Falorni, en prenant bien soin de pointer du doigt l'ensemble des bancs de l'hémicycle, de la gauche à l'extrême droite. Alors sur le fond, après 68 heures de débat au total, eh bien les députés ont donc approuvé, c'est l'événement majeur, la création d'un droit à l'aide à mourir, un droit qui sera encadré, ouvert aux personnes qui ont une affection grave et incurable, une affection qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et qui sera ouvert enfin aux personnes qui présentent une souffrance physique ou psychologique constante.
Victoria, maintenant que le texte a été examiné, il va devoir être voté, ce sera mardi.
Exactement, dans 3 jours, Karine, et si un député insoumis vient de me confier qu'il était plutôt confiant, il serait bien présomptueux de dire que le texte va être adopté sans difficulté. Je rappelle que les partis politiques ne donnent pas de consigne de vote à leurs députés pour ce texte de loi, et même si à gauche on est globalement pour l'aide à mourir, et à droite et à l'extrême droite contre, on peut trouver des exceptions dans chacun des partis. J'ajoute enfin que la loi sur le droit à l'aide à mourir ne fait en réalité que commencer sa navette parlementaire, Karine. Elle sera examinée au Sénat à une date encore indéterminée et repartira ensuite à l'Assemblée nationale.
Victorien Villaume du service politique de RFI. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis doivent être guidés par le respect mutuel et non par des menaces. Voici la réponse du commissaire européen au commerce après les menaces de Donald Trump de taxer à 50% dès le 1er juin les produits européens importés aux États-Unis. Les marchés financiers du vieux continent ont accusé le coup hier. Justine Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on des discussions en cours avec l'Union européenne, qui reste le premier partenaire commercial des États-Unis ?
Eh bien, l'objectif premier de Donald Trump, c'est de réduire le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Autrement dit, que l'Europe achète plus de produits américains, du gaz par exemple, mais aussi du bœuf texan, du poulet du Kentucky ou encore du blé du Kansas. Sauf que les normes sanitaires européennes interdisent l'entrée sur le continent de viande d'animaux traités aux hormones ou encore de céréales génétiquement modifiées. D'après les informations du Financial Times notamment, l'Union européenne serait prête à négocier un assouplissement des procédures dans ce domaine. Bruxelles propose par ailleurs d'appliquer zéro droit de douane sur les produits industriels et sur certains produits agricoles, mais si et seulement si les États-Unis font la même chose de leur côté. Une proposition insuffisante aux yeux de Washington. La menace de Donald Trump d'appliquer 50% de droits de douane sur les produits du vieux continent intervient alors que le commissaire européen au commerce et le représentant américain chargé du même dossier doivent se rencontrer à Paris le mois prochain.
Justine Fontaine du service Éco de RFI. Hong Kong ouvre ses portes aux étudiants étrangers qui renonceraient à aller à Harvard. La ville chinoise promet d'ores et déjà des procédures d'admission simplifiées. L'administration américaine entend retirer l'autorisation à la prestigieuse université américaine d'accueillir des jeunes du monde entier. Un recours de Harvard devant la justice bloque pour le moment cette décision. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se dit préoccupé après une vague de répression au Venezuela. Comme 70 militants, l'un des dirigeants de l'opposition, Juan Pablo Guanipa, a été arrêté. Des interpellations qui interviennent juste avant les élections législatives et régionales qui se tiendront demain. Au Mexique, déjà 10 jours que les enseignants sont mobilisés. Ils réclament notamment une hausse des salaires. À l'appel de la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation, les grévistes ont organisé des opérations coup de poing toute la semaine. Marine de la Moissonnière.
Hier, ces enseignants ont bloqué en partie l'aéroport international de Mexico. Mercredi, c'est le Palais National, le siège de la présidence, qu'ils avaient encerclé, empêchant les journalistes d'assister à la conférence de presse quotidienne de Claudia Sheinbaum. La veille, les manifestants avaient occupé les postes de péage des principales autoroutes qui connectent Mexico aux autres États du pays et avaient permis aux voitures de passer sans payer. Chaque jour, ces enseignants choisissent une nouvelle cible en grève illimitée. Ils occupent également en permanence le Zócalo, la principale place de Mexico. Leur revendication, un doublement de leur salaire et le retour à un système de retraite par répartition géré par l'État. La présidente mexicaine leur a proposé une hausse de 10% de leur salaire et une semaine de vacances supplémentaires. Insuffisant, ont répondu les grévistes qui maintiennent la pression. Claudia Sheinbaum commence à perdre patience. Elle a annulé hier la réunion prévue avec les représentants de la coordination nationale des travailleurs de l'éducation, les renvoyant vers les ministres de l'éducation et de l'intérieur.
Dans la bande de Gaza, les frappes de l'État hébreu se poursuivent. Déjà au moins 15 morts aujourd'hui et le peu de nourriture qui entre ne suffit pas, loin de là, à couvrir les besoins d'une population bombardée quotidiennement et affamée. L'ONU exhorte une nouvelle fois Israël à laisser passer des volumes beaucoup plus importants d'aide alimentaire. Aucun cessez-le-feu à l'horizon en Ukraine. L'armée russe poursuit son offensive. Une attaque massive a principalement visé Kiev la nuit dernière, faisant au moins 15 blessés. Seul résultat tangible des négociations à Istanbul, Russes et Ukrainiens poursuivent un échange record de prisonniers ce week-end. 307 d'entre eux ont regagné leur pays respectif aujourd'hui. 1000 au total d'ici demain soir. L'Ukraine, sujet de tension entre les deux candidats polonais avant le second tour de la présidentielle. Lors d'un débat télévisé hier soir, le maire pro-européen de Varsovie a dénoncé la position jugée pro-russe de son adversaire et son manque d'expérience à l'international. Le candidat nationaliste a lui mis en avant ses bonnes relations avec Donald Trump qu'il a rencontré début mai. Le scrutin s'annonce serré. Il aura lieu le 1er juin prochain. Il avait photographié comme personne les guerres, les exodes, la misère. Le génocide au Rwanda l'avait totalement dévasté. Sebastião Salgado s'en est allé hier à 81 ans. L'immense photographe franco-brésilien avait trouvé son salut dans le combat en faveur de l'environnement. Au Brésil, les hommages se multiplient du président Lula à la ministre de la Culture. À Rio de Janeiro, le reportage de Sarah Cosolino.
Avec les photos de la mine d'or de la Serra Pelada et ses montagnes de travailleurs, c'est la capacité de Sebastião Salgado à capter les tragédies humaines qui a marqué la photojournaliste Bruna Prado.
C'est intéressant de voir qu'il a commencé son travail en observant la condition humaine et qu'il l'a clos en montrant qu'on faisait partie d'un tout, la planète Terre, et que nous devons nous interroger sur notre existence sur cette planète et la condition dans laquelle elle se trouve à cause de notre existence.
Un photographe qui dénonce et ira même jusqu'à s'opposer à la politique environnementale de l'ancien président Jair Bolsonaro. Son travail est politique, selon le journaliste et photographe Raphaël Villel.
Sa lecture, son interprétation du monde, la façon dont il a élaboré une thèse sur le monde à partir de ses images et de ses livres, c'est ce qui a eu le plus d'impact sur moi et continue de m'inspirer aujourd'hui.
Certains l'ont accusé de tirer profit de l'esthétique de la misère. Maria Paola Resena, artiste plastique, n'est pas d'accord.
Parce que je pense que l'esthétique et l'éthique vont de pair et c'est une discussion qu'il faut que nous ayons en ce moment avec la montée de l'extrême droite. Je ne pense pas qu'il ait manqué de respect aux personnes en esthétisant certaines situations.
Son exposition Travailleur était déjà programmée à partir du 30 mai à Rio, l'occasion de se replonger dans son œuvre. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis la remise des prix à Cannes ne sera pas perturbée par l'importante coupure de courant d'origine criminelle qui touche actuellement la ville du sud de la France. Le Palais des Festivals bénéficie d'un système d'alimentation électrique indépendant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Un jour, un village.